France Inter.
Bonsoir Céline Asselot.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, la vaccination contre le papillomavirus fait doucement son chemin en France.
La France va-t-elle rattraper son retard sur les autres pays européens? On en est encore loin. La campagne de vaccination dans les collèges n'est pas à la hauteur des attentes, mais les Français semblent davantage sensibilisés selon une étude. On y revient au début de ce journal.
Les autres titres, Céline.
Gabriel Attal, seul en scène, le Premier ministre a inauguré une nouvelle formule des questions au gouvernement, répondant lui même à toutes les interpellations de l'Assemblée. On verra que c'est moyennement apprécié par les ministres. On parlera aussi du député Renaissance, Quentin Bataillon, au cœur des critiques. Il était hier l'invité de l'émission Touche pas à mon poste, alors qu'il préside une commission d'enquête où Cyril Hanouna a justement été auditionné il y a quelques jours.
Et qu'en pensent les autres membres de cette commission d'enquête? Sophie Taillé-Poilian, qui est députée Europe Écologie Les Verts et qui est aussi dans cette commission et l'invité de ce journal.
On ira aussi en Ukraine dans les prochaines minutes, où les hommes pourront désormais être mobilisés dès l'âge de 25 ans. Le décret est accueilli avec résignation. On parlera de la nouvelle stratégie du slip français. L'entreprise qui mise sur le Made in France baisse ses prix pour traverser la crise. Et puis Taylor Swift transforme les notes en or. La superstar de la pop est désormais milliardaire.
Au sommaire du 18-20 ce soir, il y a Céline Bardet. Elle est juriste, elle est enquêtrice internationale avec l'ONG qu'elle a créée. Elle vise à faire reconnaître le viol comme arme de guerre systématique et ça va aussi pour l'attaque du 7 octobre par le Hamas. C'est ce qu'elle est en train d'essayer de collecter, on verra comment, on verra surtout la difficulté d'avoir des témoignages, d'avoir des informations fiables juridiquement. Nous sommes aussi en Autriche ce soir avec le reportage. Céline Asselot, vous nous racontez l'histoire absolument dingue de cet Américain qui a changé de nom pour se présenter à la présidentielle. Franck Madvon fête les 75 ans de l'OTAN et ça manque un peu de flonflon, vous verrez. Corinne Pellissier a vu un film turc, c'est l'histoire d'un ado envoyé dans une école religieuse. Elle nous raconte ça avant 19h. En deuxième heure, c'est le téléphone sonne à partir de 19h20 et ce soir on parle de nos maisons touchées par le réchauffement climatique, l'eau, les fissures dues au gonflement d'argile, comment les maintenir assurables, quels efforts sont nécessaires, c'est ce qu'on verra ensemble au 01 45 24 7000.
France Inter.
Des affiches dans les collèges, des fiches pour les enseignants et des prospectus distribués aux parents.
En octobre dernier, le gouvernement lançait ainsi la première grande campagne de vaccination contre le papillomavirus. Objectif, vacciner 30% des élèves de 5e directement dans les collèges pour rattraper le retard de la France en la matière et pour mieux lutter contre la propagation de ce virus responsable de 6000 nouveaux cas de cancer chaque année dans le pays. Alors 6 mois plus tard, on est loin du compte, à peine 10% des collégiens concernés ont été vaccinés, mais les mentalités sont peut-être en train d'évoluer. Bonsoir Victor Dolande.
Bonsoir Céline.
Selon une enquête commandée par le laboratoire MSD, 70% des mères de famille se disent bien informées sur le papillomavirus contre 56% dans le précédent baromètre.
Oui, un signal très encourageant pour les spécialistes de la vaccination, car vous l'avez dit, la France a beaucoup de retard. Seuls 42% des filles de 15 ans sont vaccinées contre les papillomavirus et 12% des garçons du même âge, alors qu'il faudrait compter sur une couverture vaccinale de 80%, filles et garçons, pour espérer éradiquer les cancers issus de ces virus. Ces Français qui prennent davantage conscience de la vaccination, c'est donc un bon signal pour Clarisse Lost, PDG de MSD France.
Ce baromètre, pour moi, est un premier reflet de bonne connaissance des parents sur ces infections. Et c'est la première étape avant de décider à se faire vacciner. Donc voilà, c'est en train de bien démarrer, de façon à atteindre notre objectif de 80% de vaccination d'ici 2030 et d'éliminer les cancers.
Il y a quand même un bémol dans ce baromètre. Les parents de garçons n'ont pas autant conscience du danger que les parents qui ont des filles. Christophe Hommel est directeur du centre de vaccination aux hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Ça, c'est simplement lié à défaut d'information. Les mamans ne savent pas que finalement les garçons ont aussi des cancers liés au papillomavirus. Il y a 3 fois plus de cancers chez les filles que chez les garçons, mais chez les garçons, on a malheureusement des cancers. Et donc la prévention se justifie tout à fait pour eux aussi.
Dans les collèges, la vaccination continue jusqu'au mois de juin. Les élèves de 5e qui ont été vaccinés au premier trimestre recevront leur deuxième injection. Et à l'automne prochain, nouvelle campagne de vaccination. Cette fois, le ministère de la Santé entend renforcer sa communication pour convaincre davantage de parents.
Merci Victor Delande, spécialiste santé à la rédaction de France Inter. Notez par ailleurs que Santé publique France s'inquiète de la recrudescence de la rougeole en France. 117 cas déclarés l'année dernière, c'est 8 fois plus qu'en 2022. L'organisme insiste là aussi sur la nécessité d'être vacciné, alors que les Jeux Olympiques font peser un risque accru de cas importés de rougeole en France. Les JO qui sont une excellente occasion d'inciter les Français à faire plus de sport au travail, c'est ce que défendent deux députés de la majorité et du Parti Socialiste qui ont présenté ensemble un rapport aujourd'hui sur les dangers de la sédentarité des salariés. Ils préconisent notamment de créer un label entreprise sportive et de mettre en place des incitations fiscales.
Gabriel Attal seul face aux députés cet après-midi à l'Assemblée nationale.
Oui, une nouvelle formule destinée à redynamiser les questions au gouvernement, exercice très ritualisé que certains jugeaient un peu fané. Le mardi, les députés peuvent toujours interpeller l'ensemble des ministres, mais le mercredi, le chef du gouvernement vient seul dans l'hémicycle pour défendre le travail de son équipe. Bonsoir Maxence Lambrecq.
Bonsoir.
Alors comment s'est passée la première édition de ces questions au Premier ministre ?
Sans difficulté apparente pour Gabriel Attal, il a retrouvé ses réflexes de compte-rendu de Conseil des ministres, porte-parole sur tous les sujets.
Je suis ravi de pouvoir expérimenter ce nouveau format. Nous verrons s'il permet de revivifier cette séance du mercredi.
Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que l'ambiance ne change pas.
C'est pas la peine d'essayer de hurler pour m'empêcher de parler. Ça ne marche pas avec moi, donc économisez plutôt votre voix pour aller crier ailleurs, je ne sais où, dans des manifestations ou autres. Mais ici, ça n'aura pas d'impact sur mon expression. C'est
Gabriel
tout.
Attal déroule en avalant les fiches que ses ministres lui ont préparées. Il n'a qu'une voisine, Marie Lebec, chargée des relations avec le Parlement. La présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet, avait déjà proposé à Elisabeth Borne ce format. Elle avait alors répliqué « Je ne vais pas inventer des réponses à des questions auxquelles mes ministres ont la réponse. Ça n'a pas de sens. Ça nous déresponsabilise », se plaint aujourd'hui un membre du gouvernement. « J'attends de voir quand un député essaiera de le piéger sur une question très pointue ou très locale à force de parler, il risque de s'abîmer. Mais comme si c'était un spectacle, Matignon a tout de suite communiqué à la presse le nombre de spectateurs, de députés. 14h05, 158, 14h20, le pic 193 sur 577, 14h40, petite rechute 172. Et aux mêmes horaires, les chiffres moins bons de la semaine dernière pour prouver que le Premier ministre est à lui seul un succès d'audience.
Maxence Lambrecq du service politique de France Inter. Lui aussi a connu les questions dans l'hémicycle, ancienne formule, puisqu'il a dirigé le gouvernement de 2017 à 2020. Édouard Philippe est visé par une enquête pour des soupçons de conflit d'intérêts autour d'un marché public. Alors cela ne concerne pas ses activités à Matignon, mais cela concerne la mairie du Havre où des perquisitions ont été menées aujourd'hui. Précision et réaction de l'ancien Premier ministre tout à l'heure dans le journal de 19h. À Paris, le procès de deux militants du Pays Basque s'est achevé tout à l'heure. Le parquet national antiterroriste a requis des peines de 1 an et 2 ans de prison avec sursis contre les deux prévenus. Jean-Noël Etcheverry et Béatrice Moll avaient été arrêtés en 2016 en possession d'armes et d'explosifs de l'ETA. Ils avaient pris l'initiative de démanteler eux-mêmes l'arsenal militaire du groupe séparatiste. C'est en tout cas ce qu'ils ont expliqué à la barre. Bonsoir Charlotte Piré.
Bonsoir.
Au cours de ce procès que vous avez suivi pour France Inter, chaque camp a défendu son interprétation des faits.
Oui, car le transport et la détention des 29 armes de poing, 9 fusils d'assaut, 12 pistolets mitrailleurs, 2 roquettes anti-chars et tant d'autres ne font pas débat. Pas plus que les modalités de récupération des 10 malles remises par l'ETA. Alors à défaut du comment, reste le pourquoi. Et pour le parquet national antiterroriste, les choses sont claires. C'est aux conditions de l'ETA, conformément au plan de l'ETA, que les prévenus, membres de la société civile, ont récupéré cet arsenal. Des remises unilatérales d'armes nettoyées et anonymisées qui visaient clairement à protéger les membres de l'organisation criminelle requiert la représentante du ministère public et ont réduit encore les espoirs de 300 familles espagnoles en attente d'affaires toujours en cours. Face à elle, une salle remplie de soutiens militants ou politiques et 4 avocats de la défense, dont celui historique de la Ligue des droits de l'homme, venu plaider la relaxe au nom de l'intention de faire le bien. Où se trouve l'intention de commettre un délit ? C'est le contraire. Ils agissent pour le désarmement, clame l'un. Il fallait bien en passer par là. L'État ne tenait pas son rôle. C'était le dernier cri pour la paix, plaide d'autres. Et un dernier de lancer. En réponse à ces réquisitions du parquet antiterroriste, le droit ne peut pas s'écarter de la justice à ce point.
Merci Charlotte Piret. Le jugement est mis en délibéré au 16 mai prochain.
C'est un passage télé qui lui vaut une pluie de critiques.
Oui, mais qu'est-il donc allé faire sur le plateau de Touche pas à mon poste depuis hier quand un bataillon est visé par des appels à la démission venus de la gauche. Il faut dire que le député Renaissance préside la commission d'enquête sur les fréquences de la télévision qu'il a justement auditionné il y a quelques jours. L'année
l'animateur de cette émission, Cyril Hanouna, ainsi que son concurrent Yann Barthès, qui l'a publiquement critiqué hier soir à la télé. Cela lui vaut les remontrances de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui lui rappelle son devoir de réserve.
Et bonsoir Sophie Taillé-Polian.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes députée écologiste NUP du Val-de-Marne. Vous êtes membre de cette commission sur les autorisations de diffusion sur la TNT. Vous avez saisi le déontologue de l'Assemblée nationale qui a moyen de trancher ou pas?
Mais écoutez, j'estime qu'on peut pas en rester là en tout cas. Donc j'essaye d'activer tout ce qui est à ma disposition parce que là, quand un bataillon, très très malheureusement pour le travail que nous avons tous et toutes collectivement effectué dans le cadre de cette commission, a fait une sortie de route absolument déplorable. Et donc il faut maintenant trouver une solution pour que la commission puisse reprendre son travail.
Alors justement, est-ce que c'est pas l'entièreté de la commission qui est démonétisée désormais, Sophie Taillé-Polian? Est-ce qu'on peut vraiment reprendre le travail? Et j'ai presque envie de dire avec ou sans lui.
Écoutez, oui, on peut reprendre le travail parce qu'il y a eu des dizaines d'auditions. Il y a eu beaucoup de travail, des auditions très médiatisées, ouais. Mais aussi des auditions qui l'étaient moins et qui étaient pour autant tout autant passionnantes. Et nous avons des choses à dire à l'Assemblée nationale sur l'ARCOM, la façon dont l'ARCOM fonctionne et le cadre juridique dans lequel l'ARCOM évolue. Et donc, ces propositions, elles doivent aller au bout.
Parce qu'avant cet incident, Sophie Taillé-Polian, sincèrement, est-ce que vous étiez fière de cette commission, de ce qu'elle a produit, de ce qu'elle a démontré pendant ses auditions? Vous l'avez dit vous-même, il y a eu des passages qui ont été très télévisés, il y en a beaucoup qui se sont retrouvés sur les réseaux sociaux, et honnêtement, c'était pas toujours très glorieux pour dire les choses honnêtement.
Écoutez, il y a quelques passages qui ont fait du buzz, mais le travail parlementaire, vous savez, c'est beaucoup, beaucoup de temps passé à écouter tous les acteurs, à analyser les choses, y compris à entendre aussi des universitaires, des chercheurs, à regarder la situation telle qu'elle est. Tout ce travail ne peut pas être jeté à la poubelle, tout ça parce que le président a fait une sortie de route, qu'il y a eu quelques moments de buzz plus ou moins heureux. Cette commission, elle a un vrai enjeu. C'est de se dire comment les chaînes TNT, qui sont un bien public, hein, ces canaux sont un bien public. Ils sont mis à disposition de sociétés, d'éditeurs qui proposent des programmes.
Oui.
Est-ce que ces programmes respectent le pluralisme?
On vous a perdu, Sophie Taillé-Polian, pardon. J'espère que, pendant que j'essaye de meubler juste 8 secondes, j'espère qu'on vous a récupéré. Est-ce que vous m'entendez correctement?
Moi, je vous entends.
Pardon, allez-y, je vous en prie. Vous étiez en train de nous expliquer que il y avait eu une vraie utilité. Vous étiez surtout en train de nous expliquer que tout ça nous montrait qu'il fallait repenser renouvellement de la TNT de la part de certaines chaînes et aussi bien au-delà.
Absolument. Aujourd'hui, on a l'ARCOM qui a posé un certain nombre de sanctions et on a des éditeurs, des chaînes qui disent c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, est-ce que il faut continuer avec ce régime de sanctions qui, visiblement, n'est pas dissuasif et qui fait qu'à la télévision en France aujourd'hui, on a des dérapages réguliers. Donc, ce cadre juridique-là, c'est notre travail, la loi. Hein, il doit être pour faire en sorte qu'on protège les citoyens et les citoyennes des fausses informations et des dérapages. Ce travail-là, il est important.
Juste un mot, Sophie Taillé-Polian, parce que vraiment, on vous entend loin. La prochaine fois que vous vous voyez, c'est quand, tous ensemble?
Écoutez, j'espère très rapidement pour pouvoir mettre les choses au clair et continuer à avancer.
Eh ben, écoutez, c'est ce qu'on espère, on le verra. En tout cas, on verra la suite de cette affaire. Sophie Taillé-Polian, députée écologiste NUP du Val-de-Marne et membre de la commission sur les autorisations de diffusion sur la TNT. Merci beaucoup.
L'actualité ce soir, c'est aussi l'OTAN qui veut s'engager durablement aux côtés de l'Ukraine en assurant, je cite, une aide militaire fiable, prévisible et à long terme. Ça pourrait se concrétiser par un fonds de 100 milliards d'euros sur 5 ans. C'est en tout cas la proposition qui sera débattue à Bruxelles par les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN qui y sont réunis aujourd'hui. Et cette aide, elle sera sans doute bienvenue pour une armée qui peine à s'équiper, qui peine à recruter aussi. Un décret est entré en vigueur ce matin en Ukraine. Désormais, les hommes sont mobilisables dès l'âge de 25 ans contre 27 auparavant. Alors comment réagissent les Ukrainiens? Reportage à Kiev de notre envoyée spéciale Agathe Mahué.
Personne ici ne tombe des nues, explique Nazar, qui a 24 ans, serveur depuis un an dans ce restaurant de Kiev.
Ce n'est pas une nouveauté, on n'est pas surpris. Ça fait des mois qu'on s'y prépare. Avec mes amis, hier soir, on n'a même pas réagi à cette annonce. C'était attendu.
Nazar, dès l'année prochaine, pourra donc être appelé à servir son pays et il l'accepte car le jeune homme comprend l'importance de rajeunir les troupes. 43 ans d'âge moyen actuellement dans l'armée ukrainienne. Même s'il redoute que sa génération soit privée de projets pour l'avenir, surtout, il se pose des questions sur ce recrutement à venir.
Ce dont j'ai peur, moi, ce n'est pas tant d'être mobilisé, mais c'est l'inconnu. Qu'est-ce qui m'attend dans l'armée ? Est-ce qu'on va m'envoyer mal préparé sur la ligne zéro ? Ou bien est-ce qu'on va me former sur une spécialité que je vais pouvoir choisir ?
Et puis, est-ce que l'on sera bien tous égaux face à cette mobilisation ? S'interroge Nazar. Il espère qu'aucun jeune Ukrainien n'obtiendra de privilèges ou de dérogations grâce à ses relations.
Agathe Mahué et Jachar Vasilov depuis l'Ukraine pour France Inter. Le passerail va-t-il finalement voir le jour cet été ? Le ministre délégué au transport, Patrice Vergriete, assure ce soir que toutes les régions françaises sont finalement d'accord pour mettre en place ce dispositif. Plusieurs présidents de région avaient pourtant fait part de leurs réserves pour des raisons financières. Ce pass doit permettre aux moins de 25 ans de voyager partout en France dans les trains régionaux pour un forfait de 49 € par mois. Comment éviter de subir de plein fouet la crise du textile ? La hausse des coûts de fabrication, la baisse du pouvoir d'achat, ça c'est une question qui se pose pour toutes les marques de vêtements qui vivent des années difficiles et qui tentent de trouver la bonne stratégie. C'est le cas par exemple de l'entreprise Le Slip Français, marque haut de gamme qui mise sur la production locale et qui baisse ses prix pour continuer à attirer les acheteurs, Agnès Soubiran.
3 milliards de vêtements mis sur le marché chaque année en France, 3% seulement sont fabriqués dans l'Hexagone.
Des entreprises qui, dans leur modèle, font tous les jours du Made in France accessible, ça n'existe pas.
Guillaume Gibault est le fondateur du Slip Français.
Il manque cette adéquation entre un volume industriel qui fait un prix de vente compétitif qui permet aux clients d'acheter Made in France.
Ce prix compétitif, l'entrepreneur se voit aujourd'hui dans l'obligation de le proposer. Après 13 ans d'existence et une croissance fulgurante, le chiffre d'affaires de la marque est en léger recul. L'idée est donc de fabriquer 400 000 pièces.
On va rationaliser les postes, on va faire moins d'étapes, on va acheter la matière de façon beaucoup plus massive, on va acheter les élastiques de façon beaucoup plus massive. On a industrialisé aussi le produit, on a changé quelques éléments de montage pour aller plus vite. Il y avait un détail de cocarde qui était brodé, posé après, on l'a tissé directement dans la ceinture. On a optimisé la taille des cartons par rapport à la taille des sous-vêtements. C'est plein de petites choses qui, 5 centimes ou 10 centimes par 10 centimes, à la fin, fait un prix de revient qui est beaucoup moins cher et donc un prix de vente qui est presque divisé par deux.
La trentaine d'ateliers partenaires a été sollicitée dans le Gard, à Troyes, en Île-de-France, près de Lyon, une prise de risque nécessaire. Sur son site internet, le slogan s'affiche en bleu, blanc, rouge. Le Slip Français, ça passe ou ça casse.
Précision signée Agnès Soubiran. Les influenceurs dans le viseur de la répression des fraudes. Ces deux dernières années, la DGCCRF a contrôlé 310 créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. Elle a trouvé des anomalies dans près de la moitié des cas, par exemple des allégations trompeuses ou bien de la publicité pour des produits interdits. Et puis quand on parle d'influence sur les réseaux sociaux, difficile de battre Taylor Swift et ses 280 millions d'abonnés sur Instagram. La chanteuse américaine est désormais milliardaire. À seulement 34 ans, elle apparaît désormais au classement des fortunes mondiales établi par le magazine Forbes. Elle devient ainsi la première artiste, femme ou homme d'ailleurs, à amasser une telle fortune grâce à la musique, Manon Derdevie.
Une fortune qui a explosé en moins d'un an, 360 millions de dollars générés en 2023, en très grande partie grâce à sa tournée gigantesque The Eras Tour, 152 concerts dans 20 pays différents, 21 mois sur les routes. Elle se terminera le 8 décembre prochain à Vancouver et les retombées économiques s'annoncent déjà énormes, près de 2 milliards de dollars selon les estimations. Taylor Swift pourrait même battre le record de la série de concerts la plus lucrative de l'histoire. Une tournée adaptée en film, au cinéma, là encore pour des recettes colossales, 261 millions de dollars au box-office mondial. La revue spécialisée Billboard estime que le chiffre d'affaires de la marque Taylor Swift s'élève à 1,8 milliard de dollars en 2023. En comptabilisant les ventes de musique, les billets de concert, les produits dérivés, les tickets de cinéma et les royalties.
Manon Derdevet. Et puis dans un tout autre style, sachez que c'est Quentin Dupieux qui fera l'ouverture du prochain Festival de Cannes le 14 mai. Le réalisateur présentera sa nouvelle comédie, le deuxième acte, avec notamment Léa Seydoux ou Vincent Lindon, film qui sera projeté en avant-première le même jour dans de nombreuses salles de ciné en France.
Céline Aslo, merci beaucoup. Vous revenez tout à l'heure avec des morceaux d'actualité internationale en passant souplement sous les radars. Allez, un œil sur le ciel.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques, Euromaster garantit votre mobilité et préserve votre budget.
Et Sébastien Léas, de la pluie et des averses au nord, du soleil au sud.
Oui, la journée se passera sous le soleil ou sous un ciel partiellement voilé du bassin aquitain à Auvergne-Rhône-Alpes et de l'Occitanie à la Provence ainsi qu'en Corse. Alors sur la Côte d'Azur, des entrées maritimes auront quand même tendance à rester tenaces. Sur les régions de la moitié nord, la journée sera plus agitée à cause du passage d'une perturbation. Cette perturbation touche déjà le Finistère et va progressivement s'enfoncer jusqu'au Grand Est demain matin. Les pluies resteront modérées, mais cela va évidemment ralentir la décrue, en particulier sur le nord-est. On rappelle que le département de l'Yonne est toujours en vigilance rouge au cru et que l'Aube, la Côte d'Or et la Haute-Marne sont en vigilance orange pour le même paramètre. Quelques éclaircies arriveront quand même à se dessiner le matin sur la Bretagne et la Normandie et l'après-midi plutôt vers les Hauts-de-France.
Et la douceur s'installe.
Oui, la température était proche des normales de saison aujourd'hui, mais elles seront en forte hausse demain, notamment dans le sud-ouest. La barre des 25 degrés sera localement atteinte, voire dépassée. On attend d'ailleurs 25 degrés à Toulouse et à Biarritz. Prévoyez 23 degrés à Bordeaux, 22 degrés à Marseille et Perpignan, 21 degrés à Lyon, 18 degrés pour Paris et Dijon, 17 degrés à Rennes, Nantes et à Caen et 16 degrés à Lille et à Strasbourg. Cette douceur va s'accentuer vendredi et samedi et on pourra même parler de chaleur près des Pyrénées avec des 30 degrés possibles.
Sébastien Léas de Météo France.